Comme promis, c'est la deuxième étude sur l'interprétation de la Bible, comment comprendre la Bible, que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, avec trois exemples d'application des principes très généraux que nous avons établis la fois dernière. Mais il va nous falloir choisir un sujet pour la prochaine ou les prochaines séances. Il est déjà prévu que nous ayons un institut biblique le 18 janvier et un autre le 15 février. Au mois de mars, je vais vous faire faux bond plusieurs fois de suite. Je suis déjà pris en divers lieux en province. Donc, il y aura un institut biblique commun. Mais, en janvier et en février, nous aurons notre institut biblique en plusieurs groupes normalement. Et il nous faut choisir un sujet parce que nous avons maintenant à peu près boucler la boucle de notre étude de la Bible, des sujets relatifs au statut de la Bible, au traitement de la Bible. Bien sûr, nous ne cessons jamais de considérer la Bible, mais il faut quand même maintenant aborder d'autres sujets. Alors j'en ai toute une petite série, disons, qui ont été suggérées par vous, tel ou tel. Et il me semble qu'il faudrait faire un choix à la fin de la séance ce matin. Je vais vous les indiquer maintenant pour que vous ayez dans les interruptions entre deux phrases de l'heure qui vient maintenant le temps d'y réfléchir un tout petit peu et puis que nous fassions le choix à la fin de la séance. Alors, je vous dis quels sont les sujets notés. Il y avait une question qui devrait nous occuper si nous la choisissons pendant plusieurs séances. Je pense 4-5 même. Que signifie aujourd'hui ne pas se conformer au siècle présent? C'était une grande, vaste question qui avait été soulevée. Une autre question, c'était l'éthique sociale et politique, en particulier l'application des modèles de l'Ancien Testament à notre situation présente. Ce serait aussi une série, une assez longue série. Le colloque que la faculté de théologie évangélique organise à la fin du mois de mars touchera certains aspects de cette question, mais nous pourrions aussi la prendre en institut biblique, au tabernacle. Une autre question concernait les attributs de Dieu dans leur rapport à la louange. La grandeur de Dieu, la justice de Dieu, la sagesse de Dieu et le rapport à la louange. Je pense que nous pourrions consacrer une ou deux études, en tout cas, à ce sujet. Une étude est demandée aussi sur la notion de fils de Dieu, sur le titre de fils de Dieu, lorsque nous confessons que Jésus est le fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Comment comprendre? Une autre étude pourrait suivre sur Jésus-Christ, fils de l'homme. Que signifie cet autre titre? Et puis le dernier sujet que j'ai dans la liste, c'est don naturel, don spirituel, leur différence, leur présence dans l'Église. Don naturel, don spirituel. Le rapport entre les deux. Je crois que ce ne serait pas une étude qui prendrait tous les dons spirituels, parce que là, ce serait une longue étude, mais qui se concentrerait sur la question du rapport entre les dons naturels et les dons spirituels. Alors, je vous laisse un peu cogiter, que cela mijote en votre cœur pendant quelques instants, et puis donc, à la fin de l'heure, nous essaierons de faire un choix pour les prochaines séances. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, nous tentons d'appliquer les principes que nous avons discernés la fois dernière. Pour bien comprendre la Bible, avons-nous dit, il nous faut suivre la Bible elle-même. C'est elle qui doit nous être guide et maîtresse, notre lecture même. Sinon, nous risquons de retomber dans la servitude des pensées étrangères. Celles que fabrique notre propre cœur, celles que l'esprit du monde peut nous insuffler, celles peut-être que d'autres esprits peuvent aussi insinuer, si nous n'y prenons garde dans notre pensée. Il faut que ce soit la Bible elle-même, la parole de Dieu, si elle doit rester souveraine, qui nous guide. Et comment le peut-elle? Elle le peut par sa façon de se présenter. C'est quand nous voyons de quelle façon la Bible se présente que nous avons une clé sur la manière de la lire. La Bible se présente comment ? Comme une parole humaine. Elle utilise les mots que les humains utilisent tous les jours pour communiquer. Elle prend la forme que l'on trouve dans les autres livres. Donc il faut l'étudier d'après cette auto-présentation qu'elle nous donne en appliquant les règles habituelles. Il faut chercher le sens des mots, il faut utiliser les dictionnaires, il faut voir comment les phrases sont agencées, il faut tenir compte du contexte, tenir compte de la situation, parce que nous savons bien que ce qu'on dit se comprend bien à la lumière de la situation, et ainsi de suite. Mais la Bible ne se présente pas seulement comme une parole humaine, elle se présente aussi comme une parole sainte, une parole unique. Les porte-paroles qui sont les auteurs humains de la Bible se présentent comme les porte-paroles de Dieu, inspirées par lui, de telle sorte que la Bible, pour être bien comprise, ne doit pas être traitée simplement comme tous les autres livres, avec les techniques de lecture que nous employons pour les autres livres. Il y a un respect, une demande d'assistance à Dieu par son esprit. Il y a un refus de penser, quand ça nous semble comme ça, qu'elle puisse se tromper ou qu'elle puisse se contredire, si c'est vraiment Dieu qui nous parle. Donc, il faut essayer de comprendre les versets même qui semblent aller dans des sens différents, les uns à la lumière des autres. Il faut lire l'ensemble de la Bible selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire suivant l'harmonie de toute la vérité qui nous est révélée dans l'ensemble des livres bibliques. Et puis la Bible se présente encore comme un livre fortement lié à l'histoire. En fait, c'est une bibliothèque. Ces livres ont été rédigés dans un espace d'une quinzaine de siècles. Et nous avons donc à tenir étroitement compte de la situation dans le déroulement historique, et tout spécialement, bien sûr, de la différence entre Ancien et Nouveau Testament. Voilà quelques-uns des principes que nous avons, si vous vous le rappelez bien, commencé de percevoir le mois dernier. Et aujourd'hui, je voudrais voir ce que cela donne. Bon, je ne vais pas m'astreindre mécaniquement à reprendre ces principes, mais en fait, j'essaierai de les appliquer. Ce que cela donne dans le cas de trois passages plus ou moins délicats que nous commenterons assez brièvement, puisqu'il y en a trois pour une heure, mais que nous commenterons quand même, qui ont comme point commun peut-être de faire monter en nous la pensée du glorieux avènement de Jésus-Christ notre Seigneur, de son règne. Une parabole de Jésus lui-même, une prophétie et une citation que certains trouvent assez embarrassante. Citation faite par l'épître de Jude. Et à propos de cette citation, je traite d'une question qui avait été suggérée par quelqu'un pour notre étude. Je pense que cette question ne pourrait pas occuper toute une séance pour nous tous, mais que nous pouvons la toucher au moins à l'occasion de notre deuxième étude sur l'interprétation. Les citations de livres non bibliques par la Bible elle-même, quand la Bible cite des textes qui ne sont pas d'autres textes bibliques. Alors, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant, comment comprendre ce phénomène même? Donc, j'essaierai, à propos du troisième passage ce matin, de traiter de cet élément-là. Mais avant de passer au premier, qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 18, nous allons demander l'assistance de Dieu par son esprit. Est-ce que notre frère, Monsieur Litim, voudrait nous conduire dans la prière? Le premier passage donc, que je vous invite à considérer, c'est la parabole dite du juge inique dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18, les huit premiers versets, Je vais lire ce passage et puis ensuite faire donc quelques commentaires. Luc 18. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » L'Écriture se présente elle-même dans le premier verset de ce passage de manière très claire. Jésus leur dit une parabole. Tout de suite, voyez, nous avons la clé, une première clé pour l'interprétation de la petite histoire que Jésus raconte. C'est une parabole, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous dire « Ah bon, très bien, Jésus nous informe qu'il y avait un juge, peut-être qu'on va réussir à retrouver son nom, la date, dans une ville. » L'autoprésentation de la Bible est ici tout à fait explicite. Parfois, elle ne l'est pas. Il y a des paraboles où d'autres indices nous permettent de nous rendre compte qu'il s'agit d'une parabole, mais où ce n'est pas dit comme ça en clair. Mais ici, c'est dit en clair, donc aucun problème. Nous savons que c'est une parabole. Et en plus, nous pouvons savoir que le genre de la parabole était très prisé en Israël à l'époque de Jésus. Jésus, même s'il n'était pas le Seigneur et Sauveur, resterait dans l'histoire comme un maître dans l'art de la parabole. Mais il n'était pas seul à dire des paraboles. Les rabbins raffolaient de ce mode d'enseignement. Et cela nous aide aussi à comprendre les paraboles de Jésus. Nous savons, par exemple, que les personnages d'autorité dans les paraboles, le maître de maison, le patron, le roi, le juge, représentaient toujours Dieu. C'était la convention dans les paraboles. Donc, pas d'hésitation ici, ce juge représente Dieu. Mais alors, tout de suite, une question peut venir à la surface, en quelque sorte, dans notre esprit. Mais enfin, c'est un juge qui est inique, un juge vraiment abominable, moralement méprisable, qui refuse de faire justice, qui n'a de respect ni pour Dieu ni pour les hommes. Alors là, il est important de nous rappeler la différence entre la parabole et l'allégorie. Vous voyez, je commence déjà à raffiner un peu plus sur cette autoprésentation. C'est une parabole. Or, une parabole, c'est un enseignement indirect qui utilise des images en quelque sorte mises en scène, mais ce n'est pas une allégorie où vous pouvez retrouver le personnage correspond à ça, son action correspond à ça, etc. Il y a quelques allégories dans l'Écriture. Le chapitre 16 d'Ézéchiel, par exemple, nous présente une allégorie de l'histoire de Jérusalem. Alors là, on suit comme ça la fillette qui est ensuite épousée par le Seigneur quand elle a grandi, représente Jérusalem. Le moment où elle devient toute belle, c'est le moment où elle est fortifiée par David, où elle est transformée en capitale par David et Salomon. On suit comme ça. Là, c'est une allégorie. Tous les détails correspondent. Vous voyez ? Mais c'est pas comme ça pour une parabole. Une parabole est là pour nous communiquer un point principal, et souvent d'une manière provocante, d'une manière qui va susciter la surprise et parfois l'amusement aussi. Jésus utilise de l'humour dans la parabole. Assez souvent, Jésus utilise de l'humour. Ici, il est sûr qu'il devait faire rire son auditoire quand il faisait dire au juge « Aïe, 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 elle va finir par me boxer, cette femme. » Parce qu'en fait, casser la tête, ça peut se prendre au sens figuré, mais normalement, l'expression veut dire « me faire un œil au beurre noir. » Alors, qu'un juge parle comme ça, une petite pauvre veuve dans un village, ça devait faire rire. Il y a de l'humour de la part de Jésus. Et une parabole, donc, généralement à un point sur lequel porte l'enseignement, parfois un ou deux autres qui sont liés au premier, il ne faut pas être trop rigide, mais ce n'est pas une allégorie. Ce qui veut dire qu'ici, bien que le juge représente Dieu, c'est sûr, nous n'ayons pas à dire, ah ben, alors, automatiquement, le juge étant inique, Dieu est présenté comme inique, c'est-à-dire injuste, se moquant du droit. Pas forcément du tout. Ce n'est pas parce que le juge cède à l'insistance, par lassitude ou exaspération, et peut-être par trouille que cette femme en vienne à des actes qui vraiment commenceraient à être gênants pour lui. Ce n'est pas parce que le juge cède à cela que nous ayons à penser que Dieu cède à quelque chose du même genre. Là, pas forcément. Parce que c'est une parabole, ce n'est pas une allégorie. Certains commentateurs ont dit « et la veuve alors ?» La veuve, c'est l'Église. Et elle est comme veuve puisque son époux n'est pas sur la terre. Certains commentateurs ont dit cela, je les ai lus. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une interprétation si rigoureusement fondée. Ce qui est sûr, c'est que la veuve représente, dans la société du temps, quelqu'un de complètement démuni, vulnérable, qui n'a aucun moyen de se faire rendre justice, sinon son insistance auprès du juge. Mais est-ce qu'elle représente l'Église? Nulle part ailleurs, dans toute la Bible, l'Église est présentée comme veuve. Elle est présentée plutôt comme la jeune mariée qui est fiancée, les fiançailles c'était déjà le lien juridique du mariage, mais qui attend encore la fête des noces, quand le Seigneur Jésus va revenir, alors l'image de la veuve, moi je trouve pas que ça s'applique tellement au statut de l'Église. Mais que les chrétiens soient dans le monde comme une pauvre veuve dans un village d'Israël, sans grands moyens pour faire triompher leurs droits, ça s'applique bien. Là, il y a une correspondance. Vous voyez, selon une première ligne, prenant les indices quant au genre littéraire et prenant le texte comme une parole humaine qui se comprend selon les procédures habituelles de la compréhension des paroles humaines, voilà ce que nous commençons déjà à saisir de cette parabole. La deuxième grande règle ou le deuxième grand principe de l'interprétation biblique joue aussi. Ce texte est un texte qui fait partie de l'ensemble biblique, sans contradiction possible avec d'autres parties de la Bible. Eh bien, c'est cela qui nous permet de dire avec assurance l'iniquité de ce juge ne représente en aucune façon quelque chose qui serait en Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est ici représenté dans la parabole par un juge inique que nous devions le penser inique. J'ai déjà dit qu'on n'était pas forcé parce que c'était une parabole, mais maintenant je dis c'est exclu. Et c'est exclu parce que le reste de la Bible nous l'atteste. Les païens ont pu imaginer des dieux injustes, mais la Bible nous dit que l'Éternel est un rocher de justice. L'Éternel est juste, il n'y a aucune injustice en lui. Il est lumière, il n'y a en lui aucune ténèbre. Voilà ce qui nous donne une pleine assurance dans l'interprétation de cette parabole. L'élément d'iniquité, non, à coup sûr, il n'y a pas à lui chercher quelque chose qui correspondrait en Dieu. De même, l'efficacité de l'insistance, le succès du casse-pied, ça non plus, ça ne joue pas pour Dieu. Et ce serait tout à fait mal comprendre cette parabole que de la comprendre comme un encouragement simplement à insister parce que, à force de prière, on serait exaucé. Là, c'est Jésus qui nous dit, au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, que ce sont les païens qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais que c'est pas du tout comme ça pour les chrétiens, pour ses disciples, eux qui savent que le Père Céleste connaît avant même qu'il les ait formulés tous les besoins des siens. Ce n'est pas du tout ici une parabole qui nous dise « Oh, vous savez, Dieu, il est vraiment très, très lent à céder, il faut y revenir, il faut être crampon, voilà pourquoi il faut prier beaucoup, pour qu'il lâche enfin. » Ce n'est pas du tout la logique de cette parabole. Et grâce au reste de la Bible, nous pouvons le comprendre. La logique de la parabole est la logique du « à combien plus forte raison ». Si un salopard de juge qui n'a aucun égard pour la justice, qui méprise les autres, qui ne s'en fait pas un instant pour cette femme, a fini par lui rendre justice parce qu'elle l'en priait incessamment, à combien plus forte raison votre Père Céleste, ce Dieu qui vous a choisi, c'est pour ses élus que c'est en cause. À combien plus forte raison fera-t-il promptement justice? Mais vous ne pouvez pas un instant imaginer qu'il vous laisse tomber. Si ce juge-là a répondu, alors vous pouvez être sûr, quand vous priez, que Dieu répondra. Et c'est ça ce qui vous encourage à prier sans vous relâcher. C'est à coup sûr le message central, la pointe de la parabole. Et Jésus adopte une façon, je dirais, piquante de le dire, justement en faisant représenter Dieu, le Dieu de bonté et de justice, par un juge qui n'est ni bon ni juste, mais tout le contraire. Donc ça, c'est à coup sûr l'enseignement général. Mais il est intéressant de raffiner un peu l'interprétation. Parce qu'il y a, dans ce passage, un bout de phrase qui est, comme on dit, une croix des interprètes. Un élément dont on ne sait pas très bien comment le traduire, comment il faut le comprendre, il y a des thèses opposées. Au verset 6, donc la Bible à la colombe, traduit, comme je l'ai lu tout à l'heure, non, excusez-moi, au verset 7, « Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ?» Point d'interrogation. Mais il y a une note dans la Bible à la colombe, c'est un des avantages de la Bible à la colombe, qu'elle indique les autres possibilités. Ou bien, alors qu'ils patientent à leur égard. Au lieu de la question « tarderait-il à leur égard ?», on peut aussi traduire « alors qu'ils patientent à leur égard ». Et il y a encore d'autres petites variantes quant à la traduction. J'ai noté ici la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui met « et il les fait attendre ». La nouvelle version anglaise, New English Bible, dit « alors qu'il les écoute avec patience ». D'autres commentateurs, « bien qu'ils tardent ». Calvin, « bien qu'ils diffèrent de se courroucer pour eux ». Vous voyez, c'est une phrase qui n'est pas comprise exactement de la même façon par tous les commentateurs qui considèrent l'original. Le terme qui est employé ici est un terme qui correspond exactement, le terme grec, même le Nouveau Testament est écrit en grec, au mot de longanimité, d'être longanime en français. Alors ce n'est plus un mot que nous utilisions tous les jours, mais j'espère qu'il est encore compris. Qu'est-ce qu'être longanime? C'est être long quant à l'animus, l'animosité. Quelqu'un qui est longanime, c'est quelqu'un qui ne s'excite pas trop vite, qui n'éclate pas en colère immédiatement, long à l'animosité, longanime, d'où l'idée de patience. Et le mot est employé dans le Nouveau Testament plusieurs fois, pratiquement toujours en bonne part pour la patience. Une attitude de patience, et c'est l'attitude qui nous est recommandée à l'égard de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 7 et suivant. Et c'est le terme qui est employé pour l'attitude de Dieu qui semble tarder dans l'accomplissement de ses promesses quant à la fin du monde, quant au retour de Jésus-Christ, dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9. Vous savez que la seconde épître de Pierre parle du sujet des moqueurs qui disent « Où est la promesse de son avènement ? Ça fait longtemps que ça dure !» Et c'était pourtant au premier siècle qui disait ça. Et Pierre réplique d'abord « Dieu ne compte pas le temps comme nous. » Alors, ceux qui se moquent comme ça n'ont rien compris à ce que peut être la vision que Dieu a des choses. Pour lui, un jour est comme 1000 ans. Pour lui, il s'en passe des choses dans un jour. Il va jusque au plus secret instants où se décident les choses. Et 1000 ans, comme un jour. Il a tout le temps qu'il faut. 1000 ans sont comme un jour. Alors que pour nous, 1000 ans... Ça, c'est la première réponse de Pierre. Mais il en a une deuxième qu'on trouve au verset 9, où il explique que c'est parce que Dieu use de patience envers les pécheurs, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il faut que tous les élus parviennent à la connaissance du salut. C'est pour cela que Dieu, en quelque sorte, tarde à accomplir sa promesse. C'est un thème qu'on voit plusieurs fois dans l'Écriture, mais là, c'est avec le même mot que dans Luc 18. C'est le même thème que l'on a, par exemple, dans l'Apocalypse, au chapitre 6, hein, un passage important, où ce sont ceux qui sont déjà morts, martyrs pour le Seigneur, qui disent au Seigneur, mais jusqu'à quand, Seigneur? Enfin, il faut conclure cette histoire où le sang coule, où tant de souffrances. Et il leur fut répondu de se tenir tranquille jusqu'au moment où le nombre de leurs compagnons de service serait complet. Il faut que tous les élus atteignent le salut. Oui. Alors c'est le mot qui est employé ici. Et il me semble que c'est cette analogie de la foi, que c'est ce rapport aux autres passages du Nouveau Testament qui emploient ce terme, qui peut ici nous aider à discerner la nuance exacte, l'intention exacte du Seigneur Jésus. Surtout qu'en plus, il y a certainement un passage non biblique qui doit être dans la mémoire de Jésus au moment où il raconte cette histoire. Dans le livre dit de l'Ecclésiastique, écrit par un certain Jésus, fils de Sirac, qui s'appelait Jésus aussi, mais un juif, un pieux, un livre qui était fort lu dans le judaïsme et que certainement Jésus et les autres personnes du Nouveau Testament ont lu, mais qui n'est pas dans la Bible reconnue par les Juifs, n'est pas dans la Bible que nous reconnaissons. Dans ce livre-là, donc, au chapitre 35, je vous lis les versets. Vous allez voir tous les points de contact avec la parabole. Le livre de l'Ecclésiastique dit aussi Siracide, 35, « Car le Seigneur est un juge qui ne fait pas exception de personne. Il ne néglige ni la supplication de l'orphelin, ni de la veuve qui épanche ses plaintes. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues et son cri, thème du cri, n'accable-t-il pas celui qui les provoque? La prière de l'humble pénètre les nuées. Tant qu'elle n'est pas arrivée, il ne se console pas. Il n'a de cesse que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, qu'il n'ait fait droit au juste et rendu justice. Et le Seigneur ne tardera pas, il n'aura pas de patience à leur égard. » C'est la même formule, les mêmes mots que ceux que nous avons dans Luc 18, verset 7, mais avec la négation. Il n'aura pas de patience, ou il n'usera pas de patience à leur égard, tant qu'il n'aura brisé les reins des violents et tiré vengeance des nations, exterminé la multitude des orgueilleux et brisé le sceptre des injustes, tant qu'il n'aura pas rendu à chacun selon ses œuvres et jugé les actions humaines selon les cœurs. Voilà ce passage. Il me semble difficile, sachant que ce livre était répandu dans le judaïsme. Il a été écrit à peu près 200 ans avant Jésus-Christ. Il me semble impossible de penser que Jésus ait raconté l'histoire sans penser à ces lignes du livre de l'Ecclésiastique. Mais justement, dans ce livre, il est dit « Il ne tardera pas, il n'usera pas de patience ». et la négation n'est pas reprise par Jésus. Alors, quelle est son intention? Je vous suggère ceci. C'est un raffinement par rapport au sens principal reconnu dans la parabole. Jésus, ce qui n'est pas du tout dans le texte de l'Ecclésiastique, Jésus met tout cela en rapport avec la promesse de son retour. Il leur fera promptement justice au dernier jour. Le mot promptement, c'est le même mot qui est employé pour le retour de Jésus. Je viens bientôt ou promptement. Le Seigneur, Dieu écrasera bientôt, promptement ou en promptitude. Satan sous vos pieds. C'est la fin qui est promise, la fin de toutes les douleurs et de toutes les injustices, par le retour du Seigneur, l'avènement du Fils de l'homme. Jésus place cela dans cette perspective, la certitude de son retour, de la libération que ce retour apportera, du règlement selon une parfaite justice de tous les comptes. Il met l'accent sur cette certitude, et notre prière est toujours une prière d'espérance qui se porte vers l'accomplissement de la promesse de son retour. Mais Jésus, soulignant bien cela, ajoute, « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus glisse une interpellation très personnelle. C'est pas seulement le thème que Dieu jugera et que la fin de l'histoire est proche où il va juger effectivement, mais c'est aussi que le problème n'est pas donc du côté du retard apparent sur lequel les hommes et même les croyants s'interrogent, que le problème c'est le problème de la foi. Nous faisons comme si le problème c'était cette absence de réponse de Dieu, ça attend. Mais le vrai problème, c'est qu'en est-il de toi, de ton attitude? Quand Dieu, qui va accélérer ces choses à la fin, va effectivement accomplir le jugement libérateur pour les opprimés et condamnatoire pour les oppresseurs, qu'en sera-t-il de ta situation? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes ramenés en quelque sorte à l'exercice de notre foi. Et en disant, ils usent de patience à leur égard, d'une manière un peu ambiguë, on ne sait pas très bien. Il me semble que Jésus rappelle en même temps pourquoi il y a des délais plus longs que ce que nous voudrions, nous aimerions. C'est la patience de Dieu qui fait que ça met un peu plus longtemps que nous n'aurions pensé ou voulu. C'est la patience de Dieu en faveur de ses élus, pour qu'ils viennent au salut, et pour que venus au salut, ils se sanctifient, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est en faveur des élus mêmes, si le temps nous paraît long. En fait, il n'est pas long aux yeux de Dieu, et nous pouvons être assurés que Dieu va faire promptement justice, mais étant donné le sens même du délai, la vraie question concerne notre foi. Vous voyez comment Jésus prend un thème qui était déjà dans ce livre de l'Ecclésiastique, en fait une parabole, c'est beaucoup plus frappant, ça a beaucoup plus de punch, mais aussi redresse les perspectives, mais tout cela dans la perspective de son prochain avènement. Et puis, c'était toujours une tactique de Jésus, nous ramène à l'attitude de notre propre cœur. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi en nous? Voilà donc ce que je vous suggère, application sur un premier texte. Alors j'en prends un deuxième maintenant. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, les 5 premiers versets. Comme nous avons en Institut biblique étudié le livre d'Ésaïe il y a déjà quelques mois, je vais pouvoir être assez bref quand même, je pense, sur ce passage-là. Mais il me semble un bon exemple, donc je le reprends. Ésaïe 11, versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Nous sommes là en face du genre prophétique. Autre genre que la Bible atteste, il est clair que c'est comme prophète que parle Ésaïe. Cela veut dire qu'il parle au nom de Dieu pour éclairer le devenir historique et aussi pour annoncer l'avenir. Car le prophète n'est pas exclusivement celui qui fait des prédictions dans la pensée biblique, mais il le fait aussi. Et c'est le même Ésaïe qui, au chapitre 40 et suivant de son livre, va faire un très fort contraste entre tous les prêtres des faux dieux, tous leurs devins, incapables de prédire vraiment l'avenir, de manière sûre. Et puis l'Éternel, qui, seul maître de l'histoire, a prédit les événements longtemps à l'avance. C'est un grand thème, donc. La prédiction des événements futurs appartient au ministère du prophète et nous pouvons attendre cela dans un texte prophétique comme celui-ci. Quelle est la situation historique, puisque je dis qu'il éclaire la situation historique? Ésaïe remplit son ministère à une époque relativement sombre du royaume de Juda, à Jérusalem. Il y a eu plusieurs rois très décevant. Il y a eu un roi qui n'était pas le pire dans la Syrie, mais qui quand même a eu tellement de présomption qu'il a été frappé de lèpre, le roi Ozias, par jugement de Dieu. Son fils était plutôt falot, il n'a pas eu beaucoup d'énergie, et son petit-fils, qui a vraiment le pouvoir au moment où Ésaïe parle, Akaz, lui alors a décidé de s'allier avec les Assyriens et pour s'allier avec eux, pour entrer dans leur bonne grâce, de servir leurs idoles, d'introduire leurs idoles à Jérusalem, les idoles des Assyriens. Enfin, les Assyriens sont bien sûr très contents si leurs dieux sont honorés. Donc il a choisi une politique d'alliance avec les Assyriens, qui représentent la grande superpuissance du Moyen-Orient de l'époque. C'est l'Irak d'aujourd'hui, du point de vue géographique. Et le prophète, donc, doit dénoncer cette politique. Et au chapitre 7, il a annoncé que les armées du roi d'Assyrie allaient être comme un rasoir qui allait passer sur tout le corps de Juda, du royaume. Rasant tout, en fait, comme un rasoir qu'on passe sur tous les poils du corps. Voilà ce qu'il dit. Puis au chapitre 8, il a annoncé que le fleuve d'Assyrie allait inonder tout le pays, qu'il y en aurait jusqu'au cou, ce qui voulait dire que Jérusalem juste échapperait le nez hors de l'eau, mais tout serait dévasté. Et puis, à la fin du chapitre 10, il emploie encore l'image de une autre image, la forêt abattue par les bûcherons. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, verset 33 du chapitre 10, qui brise les rameaux avec violence. Les plus hauts de stature sont coupés, les plus élevés sont jetés bas. Il abat par le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Le Liban, parce que c'était là qu'il y avait une forêt, mais ça concerne la terre de Juda. Et alors c'est dans cette situation, ayant annoncé les dévastations, que la politique impie du roi va attirer sur le pays,
qu'il a une prophétie sur ce qui va se passer au-delà. Tous les grands arbres, et le plus grand de ces arbres, c'est celui de la famille royale, sont abattus par le jugement de Dieu. Il ne reste plus que des souches en terre. Un rameau sortira de la souche d'Isaïe, le père de David, c'est la dynastie royale. Un rejeton naîtra de ses racines. L'annonce d'un recommencement après le temps du jugement. Avec un début infime, comme un petit rejeton qui sort d'une vieille souche qui est restée en terre. Et ce rejeton, il devient un roi. Un roi qui règne avec justice sur la terre entière. Et on le reconnaît parce que il y a des points de contact, ça c'est le contexte littéraire, avec ce qui précède dans le livre. Les mêmes mots conseil et vaillance ont été utilisés dans le nom de l'enfant qui va naître. L'enfant nous est né au chapitre 9. Conseiller admirable. Dieu vaillant, c'est le mot qui correspond, la même racine. Dieu vaillant. Donc c'est le même enfant. Mais l'enfant a d'ailleurs été introduit dès le chapitre 7 avec le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Contre Akaz, le prophète lui a dit une vierge, une jeune fille. C'est donc, ce ne sera pas ton fils donc, va être donné. En dépit de toutes tes manœuvres, Dieu accomplira ses plans. Et il sera bien différent de toi, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et là maintenant, c'est son règne qui est présenté. Et sur quoi porte l'accent dans ce passage? Sur le rôle de l'Esprit. Ce roi, le Messie, oint de Dieu, et oint non seulement de l'huile sainte, mais de ce que symbolise l'huile sainte, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui rend capable de faire ce qu'il faut faire. Le Messie est revêtu, oint de l'Esprit, et c'est sur l'Esprit que le verset 2 et le verset 3 met l'accent. Et alors cet Esprit, l'Esprit de l'Éternel, qui repose sur le Messie, il est caractérisé d'abord comme esprit de sagesse et d'intelligence, puis de conseil et de vaillance, puis de connaissance et de crainte de l'Éternel. D'abord, les qualités qu'on pourrait dire intérieures du roi parfait. Sagesse et intelligence. Il sera plus sage que Salomon encore. Par l'Esprit de Dieu, il aura une telle sagesse et intelligence, dit le prophète. Conseil et vaillance. Là, ce sont les qualités à mettre en œuvre dans l'application. Non seulement les qualités intérieures, mais des qualités pour l'action. Il saura bien voir que faire, et il aura la force et le courage de le faire. Et puis, connaissance et crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect, l'adoration, tout cela sera fondé sur son rapport avec l'Éternel lui-même. La relation entre le Messie et Dieu qui le donne. Et cette crainte de l'Éternel, ce respect de l'Éternel est tellement important que le texte, il revient encore au début du verset 3, « Il respirera dans la crainte de l'Éternel », dit la version à la colombe. En fait, il semble que le verbe qui vient du mot « esprit », qui a la même racine que le mot « esprit », donc vous voyez, on reste encore dans l'idée de l'esprit, veuille dire « faire ses délices de quelque chose ». Pas simplement respirer pour vivre, mais respirer la bonne odeur d'un parfum humé. Dans les autres usages de ce verbe dans l'Ancien Testament, c'est la nuance qu'il a. Donc, il fera ses délices de la crainte de l'Éternel. On pourrait peut-être dire toute son inspiration viendront de la crainte de l'Éternel, de sa relation intime avec son Dieu qui l'envoie. Et l'accent sur l'esprit, il est encore présent au verset 4, mais ça ne se voit pas tellement dans la traduction, parce que il est dit « du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant », mais le mot « souffle », c'est le même mot, c'est le mot « esprit ». On peut traduire « souffle » ou « esprit », c'est le même mot. C'est aussi, semble-t-il, l'accent sur le fait que c'est par l'esprit qui lui est donné, et qui devient son esprit, qu'il accomplit son œuvre de justice, l'Esprit étant là très étroitement associé à sa parole. Et alors, très intéressant, trois échos dans le Nouveau Testament de ce passage, en fonction de ce que je viens de vous dire, et vous voyez donc les harmoniques de la symphonie biblique. Sur le dernier point d'abord, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu dans Éphésiens 6. Pratiquement tous les commentateurs sont d'accord pour dire, ça vient ici de ce verset. Le bâton qui frappe le méchant devient l'épée, c'est presque la même image. L'épée de la parole, c'est cette épée que l'Esprit porte, le souffle de sa bouche. Deuxième écho, dans l'Apocalypse, vous savez qu'il y a au chapitre 1er, au verset 4, et puis ça revient plus loin dans le livre, la mention des sept esprits de Dieu qui sont devant son trône. Ça doit être le Saint-Esprit, parce que le verset est trinitaire, de la part de Dieu qui siège sur le trône, de Jésus-Christ, le témoin fidèle, et des sept esprits. Pourquoi des sept esprits ? On peut dire que c'est le symbolisme des nombres. Sept, c'est l'unité dans la multiplicité, dans la richesse. Mais pourquoi quand même cet esprit? C'est sans doute parce que dans le texte d'Ésaïe, la traduction grecque qu'utilisaient les hommes du Nouveau Testament, et qu'utilisait Jean au moment d'écrire l'Apocalypse, a sept mots différents pour caractériser l'esprit. Nous avons vu, nous, six mots, et puis la reprise du mot crainte de l'Éternel, dont il respirera dans la crainte de l'Éternel. Mais en fait, la version grecque a mis un synonyme, piété, pour crainte de l'Éternel, et du coup ça fait sept mots, et il est devenu traditionnel, dans le judaïsme de langue grecque, de parler des sept esprits, ou des sept dons de l'esprit. Ce qui fait que c'est une allusion au septuple caractère de l'esprit. Oui. Que nous avons. C'est certainement l'interprétation qu'on doit donner pour l'expression « les sept esprits » dans l'Apocalypse. Ça veut dire l'esprit septuple, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de vaillance, de connaissance, de crainte de l'Éternel, de piété. Oui. Et puis finalement, troisième référence, dans Romains 15, verset 12, l'apôtre Paul cite ce passage, la première ligne du verset premier, et aussi un autre morceau du même chapitre que nous n'étudions pas maintenant, au verset 12, et il cite cela d'abord en nous prouvant que c'est Jésus le Messie. C'est lui le Messie. Il nous dit que c'est à son propos que la chose est dite, et aussi pour en tirer des conséquences quant à la vie de l'Église. Ce qui nous montre que le règne qui est ici annoncé, il est certes encore futur dans son expression extérieure, dans sa pleine manifestation, mais il est aussi déjà présent, déjà efficace, justement par l'Esprit. L'Esprit qui revêt le Messie, c'est lui aussi qui lui permet d'exercer son règne dans l'Église, la communauté de l'Esprit. Ça, c'est ce que vous pourrez le revoir plus en détail. Romains 15, verset 12, nous permet d'affirmer. Puis j'en viens maintenant au troisième passage. Le troisième passage, c'est dans l'épître de Jude, les versets 14 et 15. L'épître de Jude, qui a sans doute été écrite par un frère selon la chair de Jésus. Par modestie, il dit frère de Jacques. Mais nous savons que Jacques était le frère de Jésus, et les commentateurs évangéliques pensent que c'est bien lui, oui. Jude, frère de Jésus, donc selon la chair, et son serviteur, selon l'esprit. Et écrit au verset 14 et 15, les versets précédents sont consacrés à la dénonciation des prédicateurs de fausseté. On dit souvent les faux docteurs, ça ne veut pas dire des docteurs en médecine qui ont un diplôme faux, hein. Ça veut dire des docteurs qui enseignent le mensonge, des enseignants de mensonge. Et alors il dit, au verset 14 et 15, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes,
Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Quel est le problème? Le problème, c'est que Jude cite apparemment un livre qui s'appelle le livre d'Enoch, que connaissent les savants. En fait, on n'en a pas l'original, on a des tout petits fragments de son original en araméen, quelques portions un peu plus longues de sa traduction en grec, et puis le tout, on ne l'a que dans la traduction faite à partir du grec, qui était déjà une traduction en éthiopien. Oui. Mais c'était un livre donc dans le judaïsme, qui circulait dans le judaïsme, écrit sans doute par plusieurs morceaux, mais à partir de 200-250 peut-être même, avant Jésus-Christ. On ne sait pas très bien jusqu'à quel moment, en tout cas le siècle avant l'ère chrétienne. Et c'est un livre qui contient des éléments doctrinalement assez douteux. Alors, il y a un certain embarras. Comment est-ce que Jude cite, en lui donnant quand même, semble-t-il, pas mal de place, un livre qui n'est pas dans la Bible, un livre qui vient de milieux plus ou moins sectaires du judaïsme, de l'époque pré-chrétienne. Dans les premiers siècles de l'Église, on s'en est inquiété. Il y a eu une petite minorité, y compris le père de l'Église important, Tertullien, pour dire « Ah ben ça doit être qu'Enoch appartient au canon ». Que ce livre d'Enoch doit être inclus dans le canon, doit être mis dans la Bible. Mais la très grande majorité des chrétiens, et entre autres le plus érudit des pères de l'Église, qu'a été Jérôme, ont dit non, pas question, pas possible. Non, Enoch. Et Enoch n'a jamais été reconnu par les autorités juives comme faisant partie du canon. Les Éthiopiens ont quand même là suivi Tertullien. Les Éthiopiens l'ont gardé en le mettant dans leur canon. Et puis, d'autres ont dit, alors, puisque Jude cite ce texte qui n'est pas biblique, alors c'est Jude qui ne doit pas être vraiment canonique. Il y en a eu quelques-uns qui ont contesté la canonicité, comme on dit, de Jude. Vous voyez, ça a créé un certain trouble. Alors, que dire à ce propos? Je vous suggère ceci. D'abord, il me semble incontestable qu'effectivement la citation vient de ce livre d'Enoch. C'est pas seulement quelques mots, c'est 3 ou 4 lignes pratiquement reproduites textuellement d'Enoch chapitre 1er verset 9. Parce que pour ces livres-là aussi on a mis des versets, hein, les spécialistes. Il y a quelques petites différences avec le texte en grec ou en éthiopien, mais les spécialistes pensent que Jude a pu faire sa propre traduction à partir de l'araméen. Donc c'est vraiment ça. Moi, j'ai ici la traduction française du livre d'Enoch. On ne peut pas douter. Oui, c'est une citation. Et de même aussi pour le titre, le 7e depuis Adam. Car c'est comme ça que Enoch est présenté dans ce même livre, au chapitre 60 et au verset 9. Alors Calvin, mais il n'avait pas toute l'information que nous avons. Calvin avait essayé de dire, non, c'est pas le livre d'Enoch qu'il cite. Il cite une tradition qui est dans le judaïsme et c'est tout. Pour éviter l'idée, vous voyez, qu'il citait ce livre un petit peu suspect. Mais franchement, je crois que nous ne pouvons pas dire ça. Il y a vraiment là une coïncidence qui est trop précise de texte même. Donc, premier point, oui, d'accord, Jude cite Enoch. Deuxième point, il n'y a aucune difficulté quant au contenu de la citation. Que le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exercer le jugement, c'est un thème tout à fait biblique. Zacharie 14, par exemple, annonce cette venue du Seigneur en jugement avec les myriades des anges et tous ses saints avec lui. Donc, ce que dit la citation faite par Jude ne pose aucun problème. Ni d'interprétation, c'est facile à comprendre, ni de doctrine. C'est en plein accord avec tout le reste de la Bible. Donc ça, il faut bien le dire. Quelle est la difficulté alors? Troisième point.
elle est double, me semble-t-il. D'abord que ce soit un livre non biblique qui soit cité, et un livre qui n'était pas un livre dans la piété principale, disons, du judaïsme, hein, mais un livre, disons, comme de milieu sectaire. Et puis, deuxième difficulté, que Jude cite comme si c'était le patriarche Enoch de Genèse 5, d'avant le déluge, qui avait effectivement dit cela. Alors que si c'est le livre d'Enoch, on dit, ça a été écrit par quelqu'un qui a forgé ces choses, peu de temps avant l'ère chrétienne. Alors, comment répondre à propos de cette double difficulté? Premier point, Jude ne cite pas le livre d'Enoch comme écriture. Il dit, Enoch a prophétisé, mais il ne dit pas, il est écrit. Et ça fait une différence considérable, parce que le verbe prophétiser, ou le nom prophète, peuvent être utilisés de manière assez diverse. Il y a de toute façon les prophètes bibliques qui sont à 100% vrais, et puis des prophètes que Dieu donne à l'Église dans tous les temps, qui mélangent des choses humaines. Et c'est pour ça que Paul dit, examinez toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Même dans l'Église, il peut y avoir des prophéties mélangées, alors que dans la Bible, elles ne sont pas mélangées. Mais donc, ça vous montre que le mot prophétie, le verbe prophétiser, ne signifie pas du 100% venant de Dieu. Ce n'est pas l'équivalent de canonique, faisant partie de la Bible. Et Paul a employé l'expression de prophète pour un poète païen. Dans Tite, chapitre 1er, verset 12, il dit qu'Épiménide le Crétois, qui dit de ses compatriotes que ce sont des ventres paresseux, et toujours menteurs, était un vrai prophète pour eux, à leur sujet. Et on peut se rappeler aussi que Caïphe, qui était aussi un gredin, hein, ce Caïphe, le grand prêtre, a prophétisé involontairement la vérité lorsqu'il a dit qu'il était avantageux qu'un homme meure pour tout le peuple. Jean 11, 51. Donc le mot prophète ne signifie pas que le livre soit reconnu comme canonique, mais que la chose qui est dite là est vraie, et cela, nous n'avons pas de difficulté à l'admettre. Quant à la deuxième difficulté, à savoir que ça semble attribué au patriarche Enoch, qui a vécu avant le déluge, bien sûr, personne ne peut prouver qu'il ne l'a pas dit. Personne ne peut dire « Ah, Enoch est incapable d'avoir dit cela ». Mais c'est vrai que ça paraît peu probable. Et la solution qui est adoptée par la plupart des théologiens évangéliques, commentateurs évangéliques, c'est de dire « C'est une simple manière de citer le livre ». Quand il dit « Enoch, le septième depuis Adam », ce qui reprend une formule du livre lui-même, c'est une façon de citer l'ouvrage. Les livres n'étaient pas imprimés, pour citer un ouvrage, il n'y avait pas exactement les mêmes techniques de référence que celles que nous employons, et donc prendre un morceau d'une expression dans un livre, c'était une façon donc de signaler le livre. Et il me semble que ça résout effectivement la difficulté, que nous ne sommes pas obligés de croire que Enoch, qui a vécu avant Noé, donc est effectivement dit ça. Que nous pouvons dire, Jude se contente de faire référence à ce livre. Certains supposent d'ailleurs que c'était un livre que ses correspondants aimaient beaucoup, donc qu'ils l'utilisent justement pour cette raison-là. Reste la question assez générale, je termine par là, de l'utilisation de ces livres non canoniques, cités par des livres canoniques. Qu'est-ce qui fonde un tel usage ? Pour Épiménide le Crétois, comme pour Enoch, comme pour l'Ecclésiastique aussi. Dans l'allusion qu'il fait Jésus en Luc 18, et il y a d'autres allusions dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui fonde cette possibilité? Je vous suggère deux raisons théologiques. C'est, si vous voulez, assez profond, mais je crois que vous allez facilement comprendre. D'abord, que par la grâce de Dieu, justement, dans les discours que tiennent les humains, il y a mélange, il y a aussi des choses récupérables. La grâce commune de Dieu, comme on dit, celle qui maintient en vie tous les humains, et puis aussi la grâce plus spéciale qu'il donne à des croyants sincères, dans le judaïsme par exemple, fait que leurs livres ne sont pas simplement un ramassis de mensonges et d'erreurs, mais qu'il peut y avoir des choses intéressantes, des choses qu'on peut reprendre. S'il est possible pour des textes qui sont pleinement inspirés par Dieu, de citer des textes qui ne sont pas pleinement inspirés par Dieu, c'est parce qu'il y a du récupérable. Alors souvent, dans cette récupération, il y a une purification en même temps. Les choses sont remises dans la perspective juste de la Bible. La pensée est redressée par l'insertion dans un nouveau contexte. Mais c'est parce qu'au départ, il y avait quand même eu une action de cette grâce de Dieu qui empêche le péché de tout ravager dans la vie humaine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est liée à la première, mais qu'il faut quand même dire, c'est que le péché lui-même n'abolit pas la création de Dieu. Le péché, c'est pas une chose qui se met à la place de ce que Dieu a créé. À ce moment-là, cette chose, il n'y aurait rien, il y aurait impossibilité de la toucher même. Le péché, c'est un dérangement, un désordre, une déformation qui n'abolit pas ce que Dieu a créé, mais qui, de manière diverse, multiple, le défigure, le tord. Ce qui fait qu'il ne faut pas avoir la mentalité du tabou. Ouh, c'est tabou, vous voyez, comme si c'était une chose mauvaise en soi, comme chose. Il faut plutôt chercher à redresser ce qui est déformé. Il faut restituer ce qui a été la création de Dieu et qui a été abîmé par le péché à sa vérité première. C'est parce que le péché n'est pas une chose à quoi nous n'avons pas à réagir de cette manière, vous voyez, crispée, quasi magique, aussi du tabou, vous voyez, mais parce que nous avons à comprendre que c'est une déformation de l'ordre voulu par Dieu que nous pouvons, guidés par l'Esprit de Dieu, comme l'ont été les auteurs bibliques, utiliser aussi des livres non bibliques en redressant ce qui est déformé. Voilà la suggestion que je vous fais pour traiter de ce point, qui est un point qui peut paraître délicat, mais qui est quand même aussi intéressant. Voilà, l'heure est juste arrivée. S'il y a eu des questions, je suis prêt à répondre aussi après la séance. Hein. Maintenant, je crois que c'est l'heure, donc il faut que chacun soit libre de partir. Mais je suis prêt, moi aussi, à répondre à des questions. Ah oui, le sujet pour la prochaine fois, oui. Alors, y a-t-il des voix qui se font entendre pour le choix d'un sujet ou d'un autre? Le premier, donc, c'est clairement ce que... Bon, je vois que tous ceux qui se manifestent sont dans ce sens. Donc, que signifie ne pas se conformer au siècle présent? Nous nous engageons dans une série qui pourra être un peu longue à ce sujet. D'accord, je vais essayer de travailler là-dessus. Et je vous demande de prier aussi pour que je sois conduit en cette affaire. Oui, notre frère avait une question aussi, je crois. Alors, juste, je vous laisse.
Pourquoi Dieu a créé l'homme, créé l'humanité, j'ai pas la page. Ensuite, quand on savait ce qu'il y avait,
Oui. Bon, alors c'est une grande question qui nous éloigne un peu par rapport au sujet d'aujourd'hui. Je me contente de deux phrases pour vous répondre maintenant devant tous pour que les autres puissent partir. Et puis, si vous voulez, nous pouvons continuer d'en parler un petit peu. Je crois que je peux dire deux choses principalement. L'ensemble de l'histoire n'aboutit pas à un échec pour Dieu. Dieu, dans sa prévision globale, se glorifie avec un peuple nombreux, une multitude de rachetés qui vont célébrer sa gloire comme jamais elle n'aurait été célébrée autrement. Il faut avoir une vision positive de l'ensemble de l'histoire comme Dieu l'a prévu et finalement l'a fait aboutir. C'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que sur la permission du mal par Dieu,
là je me suis exprimé longuement dans un petit livre, Le mal et la croix, et que je peux vous y renvoyer.